13h08, 418-971-101, si vous avez des choses à nous dire, s'il se passe quoi que ce soit sur la route, vous êtes nos yeux, nos oreilles. Jérôme Blanchet-Gravel de Libre Média est en studio. Salut Jérôme!
Bonjour, bonjour!
Bon, ben ça va?
Très bien, vous?
Ben oui, j'ai vu que tu avais mis une petite laine. Fais-tu fret dehors?
Ben là, ça commence, ça a commencé pour vrai, là.
Ouais.
On se foutait un peu de ma gueule, là, hein, c'est un peu frileux.
Non, mais non, il fait froid. T'as un coton
ouais,
à
mais là, je, c'est plus que légitime, là, quand même.
Ouais. C'est essentiel, en fait, là.
Ben oui.
Non.
Il y a neigé en fin de semaine, c'était hallucinant.
Le vortex, moi, je m'en remettrai pas de ça, là, de faire la route Québec, Montréal-Québec,
ouais.
Puis de voir au loin un sincère vortex, là, un genre de type tornade. Là,
ah oui, que... ah oui,
c'est
une grosse tornade. Hein?
Un genre de type ouais. Tornade,
c'est ça.
Puis que c'est là où de l'intempérie neigeuse se passait, parce qu'à droite, c'était le bleu, le soleil,
ouais.
Le tranquille, c'était fascinant, là. Okay. En fin de semaine, j'avais jamais
quand vu. Quand t'es arrivé à Beauport, c'était genre un ouragan.
Ben, j'habite pas à Beauport, fait que ouais. Je me suis pas rendu là. Je voulais okay. Pas me faire voler mes capes de roue, mais. Des blagues, ben. Des petites blagues. J'ai été là longtemps, c'est pour ça que je fais des blagues.
Merci. Bon. Ah, OK, oui.
Jérôme, t'es-tu prêt pour tes élections américaines? Ça me fait halluciner.
Ouais,
quel
pas
point
mal.
Au Québec, les gens s'intéressent. En même temps, il y a quelque chose de positif. Les gens au Québec s'intéressent aux élections américaines.
Mais est-ce que c'est pour les bonnes raisons?
Mais les sources d'information, des fois, tu te poses des questions. Si t'écoutes la radio ou la télé aux États-Unis, bon, ça dit quelques trucs. T'écoutes la radio ou la télé au Québec, tu te dis, mais voyons donc, on est buggés là-dessus, nous autres, c'est des affaires. Tu sais, ce que les Américains vivent, là, on en est-tu parfaitement conscient
non,
au Canada?
Non, on est à l'abri, nous, en grande partie, à l'abri de plusieurs de ces problématiques, effectivement, que les Américains vivent, notamment l'immigration illégale. Bon, ça ouais. Commence, on commence à le voir, évidemment, avec Roxham et tout ça, mais c'est pas du tout les mêmes proportions. Donc, moi, je dis souvent, moi, je connais bien le Mexique, souvent, moi, je trouve que les Américains sont assez patients, en fait. Ils ont le sang-froid. Parce que moi, si j'avais le Mexique à ma frontière, un pays que j'aime beaucoup, je serais plus nerveux que ça. Là. Vraiment, c'est quelque chose, là, cette pression migratoire. C'est un pays aussi, on le sait, qui, dans plusieurs États, n'ont pas de contrôle sur... les autorités ont perdu le contrôle face aux narcotrafiquants. Donc, c'est un pays que l'État n'assure pas sa souveraineté, en fait, sur l'ensemble du territoire. Donc, les Américains doivent composer avec un voisin qui, finalement, a perdu le contrôle complètement. Avec des narcotrafiquants qui font la loi, qui font passer des migrants, etc., un niveau d'immigration qui est rendu démesuré aux États-Unis. Donc, vraiment, ça n'explique pas les injures racistes ou à connotation raciste, bon, ouais. Que des fois, Donald Trump a eu. Mais ça explique, disons, un état d'esprit aux États-Unis qui n'est vraiment pas encore rendu au Canada, mais absolument
mais,
pas.
Mais là. En quelque sorte, est-ce que les Américains peuvent bénéficier de cette immigration-là qui est massive?
Oui, ils en profitent beaucoup, en fait. C'est ça le grand paradoxe, c'est-à-dire qu'ils ont eu besoin, pendant un certain temps, d'une main-d'œuvre, évidemment, bon marché. Et il y a beaucoup de compagnies américaines aussi qui sont établies sur le long du tracé, ce qui fait en sorte qu'ils bénéficient de l'autre côté, mais juste de l'autre côté, de main-d'œuvre à meilleur marché. Donc, c'est vrai que les Américains sont en grande partie responsables ouais. De cette immigration et de cette interpénétration-là, même que, en fait, le nord du Mexique et le sud des États-Unis sont très, très, très interreliés. C'est ce qu'on appelle même Mex-America, c'est-à-dire c'est carrément une zone qui est unifiée même économiquement. Donc, c'est difficile, en fait, de maintenir dans ce contexte-là une frontière qui serait hermétique. Là. C'est-à-dire si chaque jour, tu as des milliers de camions qui traversent de part et d'autre de la frontière. Donc, comment... Donc, dans ce contexte-là, le mur, en fait, le mur d'acier, etc., n'est plus un symbole que vraiment un outil efficace. Donc, ils sont responsables. Ils en ont bénéficié, cette immigration-là. Ils vont continuer à en bénéficier. Évidemment, les immigrés font des emplois que les Américains ne veulent plus occuper. Un peu comme ici, dans la garderie, on le voit de plus en plus. Les éducatrices en garderie à Québec sont des femmes issues de l'immigration. Et moi, je suis très reconnaissant envers elles. Mais ça amène des problèmes. Donc, c'est vraiment le crime organisé qui, par exemple, fait du trafic humain, du trafic d'enfants. Puis ça, c'est pas, absolument pas une théorie du complot. Là, mais par exemple, on sait qu'au Mexique, il y a jusqu'à 10 femmes qui disparaissent par jour. Plusieurs enfants au travers. Donc, il y a des enfants qui disparaissent au Mexique pour être, oui, des fois importés aux États-Unis. C'est vrai, là. Donc, il n'y a rien de plus vrai que ça. Donc, les Américains sont un peu tannés, je pense, de ces réalités-là. Et ça explique quand même pourquoi ils se tournent vers Trump, en tout cas une partie d'entre eux. Donc, tu sais, on est à l'abri au Canada. On est un peu dans un safe space. On est dans une zone de confort. Et on juge facilement, je trouve. On juge assez facilement l'électeur moyen américain.
Ouais. Qu'est-ce qui fait que le mot fascisme et nazisme colle à Donald Trump depuis quelques semaines?
Là, il en parle quelques mois.
Ça fait longtemps. Qu'on le traite de fasciste, là. Ouais. C'est pas nouveau.
C'est quoi? Hier, on jasait de ça avec Denis Gravel dans le pit stop. Puis après ça, ben, je me suis dit peut-être que c'est moi qui n'avais pas les bonnes sources. Fait que je suis retourné sur Internet. Jamais Donald Trump a dit quelque chose de qui pourrait s'apparenter au fascisme ou encore comme si c'était Hitler en personne. C'est des gens qui auraient travaillé avec lui qui disent que ce gars-là est un fasciste.
C'est ça. Effectivement. Donc, c'est quand même des sources secondaires, disons.
Oui. C'est comme le téléphone arabe, je ne sais pas si on a encore le droit de dire ça, là, mais c'est comme le jeu du téléphone qui fait en sorte qu'en bout de ligne, ben, ça a l'air que c'est lui qui a dit ça. Mais concrètement, j'ai recherché en anglais et en français sur Internet, il n'a jamais dit ça. Là.
Non, ben moi je pense que non, Donald Trump n'est pas un fasciste comme tel. Est-ce qu'il est excessif? Est-ce qu'il a été vulgaire?
Ben oui.
Oui. Est-ce qu'il a manqué de classe régulièrement? Oui. C'est un personnage qui signe des... avec son fameux là, feutre. Là. Tu sais, c'est quelqu'un qui boit du coke dans son avion puis tout ça, puis du poulet Kentucky. C'est pas le comble du raffinement, là, M. Trump. Non, puis avant ça, j'ai rien contre le poulet frit Kentucky, mais c'est pas un sommet de raffinement, Donald Trump.
Il y a quand même une fascination pour les régimes autoritaires, puis il a quand même déjà dit qu'il aurait aimé avoir les généraux d'Hitler, puis qu'il faisait des références.
Ça, je l'ai pas retrouvé.
Ça, c'est la fameuse référence.
Facile,
mais au même titre que Bernie, le président de la F1, ouais, a déjà fait des déclarations controversées
mais
dans ce
sens. Est-ce que vous avez le tape de Donald Trump qui dit ça?
Mais en fait, Donald Trump...
La réponse, c'est non.
Et quand on regarde son historique, c'est plutôt une espèce de libertaire, de capitaliste libertaire. C'est pas... D'abord, il vient de New York. Il n'a jamais été républicain, en fait, là, avant d'être démocrate. En fait, à l'époque. Ouais.
Il était avec Clinton.
C'est ça. Donc, il fréquentait des milieux plutôt cosmopolites, ouais, etc. Donc, il n'a absolument pas, en fait, à la base, le profil de quelqu'un qui serait d'extrême droite suprémaciste. Après, est-ce qu'il a déjà courtisé subtilement ou non le vote d'une certaine frange?
Des extrémistes.
Ça se peut. C'est sans doute vrai, dans la mesure où, malheureusement, il y a encore aux États-Unis des gens d'extrême droite, bon, les héritiers du Ku Klux Klan, mais c'est pas une majorité d'Américains non plus. Comme je vous dis, moi, je trouve...
Ça existe. C'est correct quand même d'en parler
ça
aussi,
existe,
parce que ça serait,
ouais,
de se boucher les yeux, là, de se fermer les yeux là-dessus. Là.
Oui, mais est-ce qu'on exagère les proportions?
C'est ouais, ça, je suis quand même d'accord.
Mais au même titre que les démocrates, on courtise aussi le vote des cellules soviétique ou, disons, pro-communiste qui doit rester aux États-Unis, c'est-à-dire, ouais, on parle toujours, on va accuser, par exemple, le PQ, bon, de nourrir, d'aller chercher le vote des racistes dans le contexte de la laïcité, alors qu'on ne reprochera jamais à Québec solidaire de lui courtiser le vote de communistes affichés, là, tu sais, qui se promènent avec des drapeaux de l'Union soviétique dans des manifs. Donc, malheureusement, chacun des camps a des extrémistes, pas dans leur camp eux-mêmes, mais dans le bassin des lecteurs.
Ouais. Mais tu sais, c'est les choses qui collent à l'individu. Puis on peut faire, on peut y aller plus petit. François Legault qui dit, moi, là, l'immigration massive, c'est assez. Là. Je suis plus capable d'en accueillir au Québec. Faudrait les déporter vers d'autres provinces. Le mot n'avait pas de crise de bon sens. Là. Déporter, là,
ben,
ça,
ouais,
va dessus.
Ben...
Mais il l'a utilisé quand même. Puis après ça, ben, dans les médias, c'était vu comme, anglophone, c'était vu comme si François Legault était un raciste.
Mm-hmm.
Puis là, ben, oui, mais il a dit ça, c'est un raciste. Puis là, il se répète tout ça, à radio, à télé, c'est un raciste, un raciste, un raciste. Alors que François Legault, c'est pas un raciste, là. Il est pour l'immigration.
Non, il n'est pas raciste, François Legault.
Mais j'ai l'impression que c'est la même chose pour Donald Trump aux États-Unis. Là, t'écoutes la radio ou la télé au Québec, c'est comme si c'était Hitler en personne, alors qu'il aurait fait certaines références dans le passé. C'est du bouche à oreille. Il n'y a rien qui a été dit devant les médias. Fait que, mais quand t'écoutes Anne-Marie Dussault, c'est Donald Trump a dit ça, alors que...
Non, il y a vraiment une
On n'a pas de preuves de ça.
Il y a quand même une fabrication, là. On a un peu fabriqué le personnage. Il a embarqué lui-même un peu dans le phénomène qu'il a alimenté. C'est-à-dire, il a joué aussi. C'est très habile en communication, finalement, Donald Trump. Donc, des fois, il sort des énormités qui vont le payer un peu sa référence là, aux migrants haïtiens. Vous avez vu, là... bon, c'était très maladroit, mais en même temps, c'est ce qui a permis de parler de l'immigration illégale, oui, aux États-Unis après le débat, sa fameuse déclaration sur les Haïtiens qui mangent des chats et des chiens à Parabon, en tout
cas. Ça n'avait pas de bon sens.
Ben, c'est surtout anecdotique par rapport justement à ce qui,
exact,
se passe vraiment à la frontière avec le trafic humain et tout ça. Mais non, pour y revenir, je trouve que les Américains, non, sont assez patients. sont assez ouverts. C'est un pays qui est quand même, c'est ça, qui est très cosmopolite, où il y a 50 millions de gens qui parlent espagnol. Donc, il y a aussi une insécurité identitaire, une insécurité linguistique qu'au Québec, on devrait comprendre. C'est-à-dire, de plus en plus, l'espagnol s'impose dans plusieurs grandes villes aux États-Unis. Donc, il y a des anglophones, évidemment, qui se sentent inconfortables à travers ça. En même temps, l'espagnol fait partie aussi du paysage des États-Unis depuis le début parce qu'on sait que les États-Unis ont quand même... se sont appropriés la moitié du territoire du Mexique. Donc, tous les territoires, en fait, où il y a beaucoup de Mexicains, d'Hispanos, ce sont aussi les anciens États mexicains. Hein. Donc, c'était un peu... Donc, quand Donald Trump va nous dire, par exemple, qu'il veut que les immigrés font une conquête territoriale, on a quand même envie de leur rappeler que les États-Unis ont conquis eux-mêmes aussi, ont colonisé, par exemple, le Colorado. Quand Trump nous dit au Colorado que les immigrants font de la colonisation, on a envie de dire, ben, c'est parce que vous avez colonisé le Colorado il n'y a pas si longtemps. Là. Donc, vous échangez un peu les colonisations. Donc, il y a plein de nuances qu'il faut faire. Mais même chez les républicains, il y a plein d'hispanos. Hein. Vous savez, les hispanos votent de plus en plus républicains. C'est maintenant plus que la moitié des hispanophones. Donc, tu as beaucoup d'hispanophones. Tu as des latinos aux États-Unis qui sont contre l'immigration illégale. Ça, on n'en parle pas beaucoup à Radio-Canada.
Oui. Bien, parlons de ces grands médias généraux qu'on a ici au Québec. Qu'est-ce qui explique l'hystérie anti-Trump? Parce que, tu sais, moi, sur les zones de boulevard, là, Trump, pour moi, il me laisse ni chaud ni froid. Je regarde l'individu, je le trouve intéressant. Je me dis comment ce gars-là est capable d'aller chercher 50% des Américains. Mm-hmm. Puis de l'autre côté, Kamala Harris, qui n'était pas supposée être là, qui prend la place à Joe Biden, c'est la même chose. Elle va chercher 50% des Américains. Je trouve que ça vaut la peine de s'intéresser à ces deux individus-là, mais j'en fais pas une maladie. Qu'est-ce qui fait qu'il y a certaines personnes qui parlent à tous les jours à la radio ou à la télé qui sont uniquement focussées sur Donald Trump?
Oui. Au Québec en particulier, bien, c'est vrai ailleurs, mais au Québec, c'est vrai que c'est encore plus fort qu'ailleurs. En France, on va voir ça, mais pas autant qu'ici. Ici, je trouve qu'on parle beaucoup des États-Unis avec un sentiment de supériorité morale. C'est-à-dire que c'est comme si notre modèle était supérieur à celui des Américains. On n'est pas capable, en fait, de comprendre la psyché américaine. C'est-à-dire les Américains, c'est pas les Québécois. En gros, c'est pas une grande nouvelle. Donc, nous, on a une lecture québécoise des États-Unis. On aurait envie que les Américains soient comme nous, qu'un système de santé comme le nôtre, qui est tellement bon, finalement. On ne comprend pas les Américains. Pour nous, pour le Québécois moyen, ça prend un État qui est maternant, ça prend moins de responsabilités. On ne comprend pas l'Américain moyen qui réfléchit dans des termes qui ne sont pas les nôtres, la liberté individuelle, par exemple. Sinon, on ne réfléchit pas encore dans ces termes là collectivement au Québec. Donc, tu as vraiment une incompréhension. On lit les États-Unis à travers le prisme du modèle québécois et ça ne fonctionne pas parce que les Américains ne réfléchissent pas comme nous. Et j'ai envie de dire un peu tant mieux dans le sens où tous les peuples ont leur particularité. Donc, tu as un gros phénomène d'incompréhension qu'on retrouve moins au Canada anglais parce que forcément, eux sont anglophones, ils sont plus près américains. Donc, tu as de l'incompréhension puis tu as une espèce de chauvinisme aussi. C'est un peu hérité de l'héritage catholique. À l'époque où les catholiques, finalement, aussi prétendaient, eux, avoir la véritable foi, contrairement aux protestants. Donc, tu as un vieux réflexe aussi canadien-français de dire les protestants, ben ils n'ont pas le bon Dieu, finalement. Puis c'est profond, là, tu vois, là, mais il y a encore de ça. C'est-à-dire, finalement, c'est des infidèles, les Américains, d'une certaine façon. Et la preuve, ils trippent sur des gens comme Donald Trump.
Mais ça me perturbe parce que ces gens-là font passer leur opinion comme étant des faits. J'en reviens un peu au fait que Donald Trump aurait eu des propos hitlériens. Là. C'est du bouche à oreille. Là. Mais ils font passer ça comme si c'était Donald Trump qui l'avait dit lui-même, puis il y avait vraiment la preuve comme quoi il l'avait dit, alors que c'est complètement faux. Est-ce qu'un mensonge devient plus vertueux quand on dit « oui, mais moi, je suis la vertu, donc même si je mens, c'est pas si grave que ça, parce que c'est pour la bonne cause, c'est pour ma cause, puis Donald Trump, je l'aime tellement pas, puis je sais qu'il y a des gens qui l'aiment pas, donc ce petit mensonge-là, c'est pas si grave que ça. » C'est la vertu qui... Ils se cachent sous la vertu, ces gens-là?
Oui, t'as beaucoup de... On fait plus de morale que d'analyse, finalement. Encore là, c'est ça, c'est qu'il faut être équitable des deux côtés. Tu sais, Kamala Harris, quand on dit, par exemple, que Trump représente une menace à la démocratie et qu'il va peut-être utiliser des procureurs pour assurer son pouvoir, etc., c'est peut-être vrai, mais c'est aussi vrai de l'autre côté. C'est-à-dire que On a vu aussi des juges aux États-Unis faire le jeu des démocrates, un peu comme, c'est exactement comme au Brésil, en fait. Ça, bon, c'est une comparaison un peu exotique, mais l'instrumentalisation du judiciaire par le politique, c'est très américain, c'est très brésilien, c'est le même genre de système présidentiel, le même genre de système politique. Donc, moi, je pense que les démocrates sont autant une menace pour la liberté d'expression, sinon plus que les républicains. Là, donc, quelqu'un, par exemple, un certain Pierre Martin, là, qui fait beaucoup parler de lui sur X actuellement, nous dit bon, Donald Trump va être une menace à la démocratie, va restreindre bon, les canaux d'information. Ouais, mais parce que Hillary Clinton a dit qu'elle voulait, elle proposait de criminaliser des opinions considérées oui. comme de l'ingérence étrangère. Là. Donc, tu sais, soyez au moins. Vous êtes critique de Trump, c'est bien, je veux bien, là, puis il y a plein de raisons de l'être, mais soyez quand même un peu équitable dans votre traitement.
De l'autre regarde, côté, ben oui,
quand même. Les démocrates qui veulent soutenir l'Ukraine, bon, poursuivre dans une escalade guerrière, etc., ils sont avec le complexe militaire, militaro-industriel. Je veux dire, les démocrates, c'est pas des anges non plus, là, c'est pas des c'est quand même des gens qui représentent le système. L'armée, le complet, quand même, l'armement, là, tu sais, donc c'est pas banal. Donc c'est pas, non, ils sont pas blancs comme neige, nos amis démocrates, là, pas plus que les républicains. Puis c'est les États-Unis, hein, les États-Unis, donc les Américains sont tellement forts que honnêtement, il n'y a aucun parti aux États-Unis qui peut non plus être prétendre à incarner la vertu, là. Parce que vous êtes à la tête des États-Unis, c'est une puissance mondiale. Donc les jeux d'influence et de pouvoir sont tellement grands que forcément vous allez vous salir, là.
Exact. Une chose est sûre, c'est qu'il y aura des élections présidentielles. Ce sera une présidente ou un président. Puis après ça, bon, on va avoir un 4 ans à attendre. Puis après ben ça, oui. ça va être le nouveau.
Mais ce sera pas l'apocalypse.
Le nouveau le plus total.
Ce n'est pas l'apocalypse.
Ben non.
Non, ce n'est pas la fin du monde. Que ce soit un candidat ou l'autre, la Terre va continuer à tourner. C'est ça, la Terre tourne ou c'est ça? Oui, oui.
Oui, oui, la Terre tourne.
Je ne vais pas dire des trucs comme Monsieur Philosophe. Je vais perdre ma job.
Non, ça
la Terre est plate.
Pas.
Merci beaucoup, Jérôme, pour votre passage. Ce sera le dernier.
OK, moi, oubliez ça, les sciences naturelles, c'est pas mon créneau. Là.
Non, c'est ça. Jérôme Blanchet-Gravel, on te suit sur Libre Média.
Oui, libre-media.com. Et je rappelle, une conférence le 12 décembre
yes.
sur l'avenir des médias, ici même, dans le complexe, ici, la salle Saint-Léon-Bourneuf. Tous les billets sont épinglés sur notre page X.
Toujours un plaisir. Merci.
Merci.